nous recevons aujourd'hui le collectif Palestine Figeac. Après avoir organisé une soirée Palestine le 10 mars au cinéma Charles Boyer de Figeac, soirée qui a connu un très grand succès avec la venue de Leïla Chaïd, le collectif Palestine vient nous parler aujourd'hui de l'actualité en Palestine. Qu'en est-il de la situation à Gaza, en Cisjordanie, et quelles actions pouvons-nous mener à notre niveau ? Jacques, Gérard et Régis sont avec nous. Bonjour messieurs. Et je vous propose de commencer donc par la situation à Gaza.
À Gaza, si nous sommes ici, malheureusement, franchement, je préférerais être ailleurs et parler d'autre chose. Mais à chaque fois, on est obligé de parler de cette actualité. Et puis cette actualité, depuis le mois d'octobre, qui se centre sur Gaza. Quand je dis depuis le mois d'octobre, parce que souvent on a tendance à opposer ce qui se passe actuellement à Gaza avec l'occupation et la guerre que Israël mène à Gaza, et d'un autre côté, dans la balance, si on fait une espèce de faire une balance avec les attentats commis en Israël le 7 octobre. Et quelque part, dès le début, moi, ça me choque complètement. Alors, bien sûr, encore une fois, on ne va pas dire bravo au Hamas ou aux Palestiniens ou autres qui sont intervenus pour tuer des civils. Au passage, on pourrait dire pas que quand même. Mais bon, parce que souvent, ce qu'on entend, ce que j'entends, c'est quand on est notre présence sur le marché, par exemple tous les samedis on est présent sur le marché de Figeac à 11h, et à chaque fois il y a toujours une personne avec qui on arrive à discuter, heureusement quand même, qui dit oui mais c'est les Palestiniens qui ont commencé le 7 octobre, etc.
C'est un peu schématisé peut-être quand même, non ?
C'est un peu réducteur, et puis ça témoigne aussi un peu de ce que on entend à travers les médias principaux ici, en France surtout, parce que je parle pas bien sûr des États-Unis ou de l'Angleterre, mais dans les pays d'Europe par exemple, en France on est quand même bien servi avec une propagande assez orientée. Et donc pour moi c'est assez choquant. Tout en disant, on reconnaît que le 7 octobre, c'est pas, on va pas justifier le 7 octobre. Enfin, on va pas justifier, on va pas dire, c'était bien. Mais dans le côté, mettre dans la balance ça, et puis dire, maintenant, on en est à 30 000 morts, c'est un peu lourd, quoi. Et donc, comme je viens de le dire, 30 000 morts, je crois, maintenant.
Dépassé.
Maintenant. Et on peut doubler quand on pourra aller sur le terrain.
Oui, parce que ces chiffres, ils viennent... Quelle est la source de ces chiffres ?
Le Hamas, mais qui est reconnu par l'ONU dans les statistiques qu'il donne, parce qu'en fait, ce sont les hôpitaux, ce sont ce qui reste
des hôpitaux.
Voilà, ouais. les ONG, le peu qu'il y a, d'ONG qui fonctionnent, qui donnent ces chiffres. Donc je pense qu'ils ne sont pas contestables, et je pense qu'ils vont prendre une autre puissance quand on va pouvoir rentrer dans Gaza.
Toutes les disparitions, les gens qu'on ne retrouve pas, parce qu'il y a un certain nombre qui sont restés sous les décombres aussi.
Et à ça, il faut ajouter, c'est les Israéliens, l'armée israélienne qui empêche l'aide humanitaire d'arriver et qui met le territoire de Gaza sous la famine.
Sous la famine, oui.
Donc, et la famine, quand on voit les enfants qui sont en pleine croissance, qui sont en développement et qui souffrent de la faim, c'est un peu une bombe à retardement sur le développement, sur l'avenir de la société, c'est-à-dire que des enfants qu'on prive de nourriture, d'un développement normal, ne connaîtront pas une croissance normale. Donc c'est une action délibérée d'éliminer pratiquement une partie de la population. Donc quand on parle des 30 000 morts... qui ont été constatés, il faut ajouter aussi l'effet que c'est une bombe à retardement sur...
Oui, Jacques.
Également, on a assisté la semaine dernière dans les infos à des des largages par les États-Unis de produits humanitaires, enfin de, ça montre l'humiliation oui. que fait peser Israël sur les États-Unis. Les États-Unis, à plus de 90%, leur fournissent les armes tous les ans, les maintiennent à bout de bras, ce pays, qui est quasiment un État, un des États américains au Proche-Orient, un de plus, une étoile de plus. Eh bien, ils n'ont pas accepté, ils n'ont pas pu accepter la proposition des États-Unis d'avoir un couloir pour camions. Uh-huh, ouais. Donc, c'est une humiliation totale pour Biden, uh-huh. Le fait d'être obligé de larguer de l'aide humanitaire. Ça ne correspond en rien, en plus, c'est une goutte d'eau. Parce oui. que
et puis, ce n'était c'est... pas du tout organisé. Parce non, qu'on non. dit l'aide humanitaire, c'est très bien, mais il faut que ça soit organisé. Et là, on a vu, oui.
c'était un massacre. De... C'est un fiasco. Alors, ça, c'est autre chose. Ça a été le convoi, effectivement, oui. qui a été organisé mm-hmm. que par Israël, tout seul. Ah, oui. Et effectivement, de nuit, et là, ça a été un autre fiasco avec 100 morts, 120 morts tués délibérément. Voilà. Donc effectivement, Gaza, c'est tout ça. C'est la famine, c'est au-delà des bombardements. C'est la peu de possibilités que les gens qui ont été chassés reviennent sur leur terre, qui sera un désastre total. Hein, c'est Dresde, c'est les plus grandes villes comme ça qui ont été bombardées au cours des guerres précédentes.
Israël, elle entretient le chaos et l'anarchie, parce qu'on peut parler quand même de chaos et d'anarchie. Mais Israël l'entretient.
Bien sûr, non ? Puisque maintenant des gens affamés, les gens affamés essayent à tout prix d'assiéger le peu de camions qui rentreraient. Donc effectivement, dans cet été-là, on est poussé à la sauvagerie, quoi, dans cette famine.
Juste pour petit terme qui me fait toujours bondir aussi, c'est Gérard. Le chaos ou l'anarchie.
Oui.
Malheureusement, ce n'est pas l'anarchie, je dirais. Parce que l'anarchie, il y a deux sens à l'anarchie. Moi, je mettrais l'anarchie avec un grand A.
Oui, non, bien
et à
sûr,
ce moment-là, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe
oui,
là.
Oui, bien sûr.
Voilà.
Oui, le chaos, c'est mieux.
Oui, oui.
C'est non, le chaos, c'est le chaos. Voilà, le chaos.
Ben, le chaos, et puis non, mais c'est ce qui est dramatique aussi, quand même, c'est que tout à l'heure, on parlait de la Nakba. Ça dure depuis
75 ans,
quoi. Mmh. Et que quand on parle des camps de réfugiés, déjà, c'est des réfugiés pour Gaza en plus, c'était des réfugiés de réfugiés. Enfin, et puis les gens qui sont là, c'est la troisième génération, quatrième génération, nés dans des camps. Enfin, ils n'ont jamais connu autre chose que des camps. Ils n'ont jamais connu autre. Alors, c'est vrai pour Gaza, mais c'est vrai aussi pour les territoires palestiniens dont on parlera un peu plus tout à l'heure. Mais ce que les jeunes connaissent, c'est ça, c'est des camps pour la plupart. Hein. Bon, il y en a qui vivent hors des camps quand même. Mais c'est avec les incursions militaires qui sortent du mur, qui sent tout ça, là, les jeeps, les blindés qui rentrent dans les camps et qui défoncent tout aussi, les maisons qui prennent des gens. Enfin, les enfants connaissent ça. Quand je parlais tout à l'heure des séquelles, bon, on en voit, il y en a déjà qui. Enfin, on s'est documenté, c'est analysé, on sait très bien. Que ces jeunes, ces enfants qui maintenant sont ados voire adultes, ils souffrent. Ils ont souffert et ils ont des troubles aussi du comportement. C'est pas évident. Enfin, faut savoir quand même que toutes les familles connaissent, ont un membre de leur famille qui est en prison, soit en détention administrative, soit interné. La plupart des familles aussi ont des martyrs. Enfin, ce qu'on appelle martyrs, c'est-à-dire des gens qui sont morts, tués par l'armée israélienne. Donc, c'est vaste. Et après, c'est dur de s'imaginer à la place, quoi. Enfin, moi, quelle est la perspective, enfin, voilà. Et alors après, bon, on en parlera peut-être avec BDS si on a un peu plus de temps, mais c'est de dire, c'est aussi... la dimension internationale, enfin, la responsabilité de tout le monde. Alors on dit la responsabilité des États, oui, bien sûr, la responsabilité de la France, des États-Unis, Jacques en a parlé aussi un peu, et c'est aussi une responsabilité individuelle, parce que franchement, maintenant, on peut difficilement se dire qu'on n'est pas au courant qu'il se passe un génocide en Palestine. Et donc, en gros, c'est la responsabilité de chacun de se dire qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je reste les bras croisés et puis bah, je plains et puis je dis ah bah c'est pas bien ? Ou est-ce que je me bouge un petit peu et que faire à ce moment-là ? Bon, même si c'est pas simple, il y a toujours quelque chose à faire. Et puis aller jusqu'au bout, enfin, faire pression aussi sur les États et nos États pour dire bah ça suffit quoi, respecter au moins ce que vous dites, respecter les engagements internationaux, demander à Israël, obliger Israël de respecter ce que les États internationaux ont décidé.
Disons qu'en gros, Jacques, il y a les possibilités qu'aurait la France pour se sortir dignement de cette affaire. Une, c'est bien sûr un embargo sur les armes, bien que la France ne vende que très peu d'armes par rapport à l'Allemagne, l'Italie et les États-Unis, bien sûr, en grande majorité. Embargo sur les armes pour symboliquement, mais aussi surtout l'arrêt de cet accord d'association qui, dans son article 2, précise que cet accord d'association économique où il y a des taxes qui favorisent Israël dans les échanges commerciaux, cet accord prévoit dans son article 2 que tout ça se fasse avec l'idée... effectivement, d'un respect des droits humains, etc. Donc ça, c'est bafoué depuis des années et des années. Cet accord est sans cesse renouvelé par l'Europe avec Israël. Donc on pourrait déjà au moins arrêter, comme on l'a fait pour la Russie,
un
minimum, on pourrait arrêter tout accord économique et le reste aussi, et culturel, etc., tous les jumelages, pendant un moment, au moins un moratoire, pendant que ce désastre se poursuit. Mm-hmm. Voilà.
Alors, on parle beaucoup de... Oui, pardon, Gérard.
Il y a peut-être une action aussi possible, enfin, on n'entend pas trop parler en ce moment, même si je pensais aux Jeux Olympiques... Parce que, bon, on entend parler des Jeux Olympiques, puisque
pas du tout.
Il y a une remise de clés sur un village olympique. Voilà, donc on va à l'inauguration et tout. Mais à la limite, ça serait de refuser qu'Israël participe à ces Jeux Olympiques. Enfin, c'est tout, quoi. Je vois pas.
Techniquement, ça dépend de la décision du Comité international olympique. C'est lui qui doit décider.
Oui,
il y a une demande dans ce sens, mais on ne se fait pas trop d'illusions.
Oui. Alors, on parle beaucoup de Gaza, bien sûr, enfin, je veux dire, même dans les médias, de manière générale, mais qu'en est-il de la Cisjordanie ?
Eh bien, pour la Cisjordanie, effectivement, c'est des infos qui nous parviennent d'une manière beaucoup plus faible, si je peux dire, alors que l'intensité n'en est pas moins importante. Depuis que ce gouvernement raciste est au pouvoir avec Netanyahou et le ministre des Affaires étrangères et de l'armée, effectivement, les colons se sont sentis les coups des franges pour attaquer les villages palestiniens. Là, on parle des territoires occupés de Cisjordanie, on n'est plus à Gaza. Donc il faut savoir que ça remonte à avant, bien sûr, le 7 octobre, et que beaucoup de commentateurs pensaient même que un conflit allait éclater en Cisjordanie plutôt qu'à Gaza. Donc là, on en est à un triste bilan quand même, hein, qu'on ne donne pas toujours. C'est des exactions, des attaques des colons soutenues par l'armée régulièrement, des gens qui sont carrément emprisonnés chez eux, qui n'osent plus sortir dans des villages, des grandes villes comme Jenin, Hébron, etc., Naplouse, qui sont quasiment ceinturées par les colonies et les colons, et qui font régner la terreur, en fait. Donc on en est quand même à 406 Palestiniens tués depuis le 7 octobre. Ça s'est effectivement accru à partir du 7 octobre. On a près de 1000 Palestiniens qui ont été déplacés en Cisjordanie, qui ont été chassés de leur maison par les forces de sécurité israéliennes. Et on a plus de 7000 Palestiniens qui ont été arrêtés et qui subissent effectivement, ça a été reconnu par l'ONU, des tortures dans les geôles d'Israël. Tout cela sans avoir, sans motif, hein, c'est simplement des détentions administratives. Et en particulier les grands camps de réfugiés de Cisjordanie, que sont Jenin et Tulkarem, etc., sont particulièrement touchés, puisque effectivement c'est dans ces camps de réfugiés qui existe historiquement une résistance organisée. Et donc là, il y a eu par exemple Jenin, c'est quasiment 80 personnes qui ont été tuées dans les deux mois qui viennent. Et au total, 5 camps de réfugiés qui ont été assiégés. On en est aussi avec des attaques de 600 attaques ont été inventoriées. Ça, c'est l'ONU qui le dit.
C'est l'ONU.
600 attaques sur les villages par les colons. Et en parallèle, bien sûr, on continue à créer des colonies illégales. Il y en a eu 26 en un an. Et là, depuis le 7 octobre, eh bien, on continue. Il y a 10 colonies illégales. Et on connaît le processus parce qu'il dure depuis des décennies. Un fou arrive avec son drapeau et dit « c'est la terre d'Israël », à un endroit où c'est la propriété d'un paysan palestinien. De là, il y a une manifestation ou quelque chose des ayants droit. Et là, il arrive tout de suite une jeep de l'armée qui soutient cette personne, qui crée un petit bunker, un petit truc, et de là se développe une colonie qui, au début, est effectivement jugée illégale, mais en peu de temps, elle est validée par l'État. La colonisation, elle fonce à plein. Là, ils ont effectivement pris une vitesse supérieure, les colons, sachant que voilà, c'est le moment pour eux de chasser, en fait, de continuer à chasser les Palestiniens. Et en particulier la vallée du Jourdain, qui est quasiment maintenant tout occupée et qui est la plus riche au niveau des productions et des terres. D'où l'idée, effectivement, qu'il convient de boycotter ces produits qui sont cultivés sur des terres qui ne leur appartiennent pas. Alors un autre, simplement par rapport à la Cisjordanie, une autre information dont on ne parle pas actuellement mais qui est importante, on sait qu'il y a 15 jours, 3 semaines, la Cour internationale de justice avait clairement défini qu'on était dans un processus de génocide et qu'il convenait aux États membres et à Israël d'arrêter ce processus, ce qui ne fait pas. Les États membres restent comme ils sont. Les États-Unis même ont mis leur veto dernièrement encore, à troisième veto qu'ils mettent à stopper une aide humanitaire. Mais il y a quelque chose qui remonte à un peu plus d'un an, c'est que 52 États, dont la France, ont saisi la Cour internationale de justice, et elle doit à présent statuer sur la légalité de ce régime militaire d'occupation imposé par Israël en Cisjordanie et à Gaza. Donc ça, c'est important parce que ça va permettre de définir aux yeux du monde quel est ce type d'occupation. Il ne faut pas oublier qu'Israël n'a jamais affirmé de frontières, n'a pas de constitution et reste dans le flou depuis 70 ans, sachant bien pertinemment que leur volonté, c'est effectivement d'expulser le maximum, même si on doit mettre un siècle ou deux, de Palestiniens. Donc là, ça va être important, le verdict de la Cour internationale de justice, parce qu'elle va permettre de répondre à la question de l'impunité de cet État. Et les alliés d'Israël encouragent de fait leur partenaire, Israël, non seulement à commettre des crimes, mais aussi à les documenter, à les proclamer. Donc là, il y aura quand même objectivement une décision juridique de cette définition de l'occupation d'Israël et de ce que ça représente, quoi, en Cisjordanie, dans les territoires occupés.
Mais quelque part, tout ça, ça équivaut à un double discours. D'un côté, on veut faire quelque chose, mais d'un autre côté, on ne veut pas faire. Non, je ne sais pas. C'est clair ce que j'ai dit.
Oui, ben, la France, elle fait effectivement, c'est totalement ambigu parce qu'elle n'a jamais pris la responsabilité de s'opposer, radicalement,
oui,
comme on a dit. Mais en fait, c'est toute l'Europe aussi, c'est le clan États-Unis, Europe, Occident, quoi, qui est d'ailleurs une attitude qui est pas très bien comprise et perçue par une grande partie du monde qui, eux, soutiennent effectivement la cause palestinienne.
Mmh. Alors, plus globalement, c'est une analyse personnelle que je les vois comme ça. Je dirais qu'on parle beaucoup d'États et autres. Bon, je ne vais pas défendre les États, bien évidemment. Mais au-delà, c'est quand même un problème, je dirais, de société, de choix de société. Puisque qui dit vente d'armes dit société qui produisent des armes, dit super profit, dit financement de ces sociétés, et maintenant on n'est pas au niveau national, mais au niveau supranational, international. Donc c'est clairement le système majoritaire que l'on subit ici et que l'on subit dans la plus grande partie du monde qui est à revoir, à remettre en cause. Enfin, c'est en gros aussi pourquoi est-ce que en France, on rechigne à faire quelque chose, c'est d'un point de vue économique, bah, c'est parce que forcément, il y a des intérêts. Il y a des intérêts économiques énormes. Et on fait du chantage aussi sur des intérêts économiques, on va dire personnels, qui peuvent toucher les gens. Je vais prendre un exemple. Bon, même si la France n'est pas directement engagée dans la fourniture d'armes, ça n'engage que moi autour de cette table, c'est de dire que quand même ici on a de l'industrie aéronautique dans le sud-ouest de la France et en particulier à Figeac. Alors bon, il n'y a pas de fourniture directe d'armes à Israël à ma connaissance, bon. Mais on sait très bien, par exemple si je prends Figeac Aéro, qu'il y a un accord entre Figeac Aéro et IAI pour travailler ensemble, pour produire des pièces d'avion. Alors, un avion civil, un avion militaire, voilà, peut-être que les couleurs de la peinture ne sont pas les mêmes, mais l'intérieur, c'est le même. Et on ne produit pas l'avion en entier, c'est des éléments d'avion et tout. C'est pareil, je dirais même pour Ratier, puisque c'est Collins, quand même, qui est à la manœuvre derrière, international, groupe international, documenté, là, pour fournir des armes directement à Israël au niveau des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Donc, quand même, on est un peu au courant. Alors certes, c'est toujours la même chose. C'est pas facile de dénoncer, parce qu'effectivement, à chaque fois, on va dire « Oui, mais ça fait vivre quand même des gens ici. » Et effectivement, ça fait vivre des gens. Donc, mais le système, quand même, c'est peut-être le système qu'il faut revoir. Et peut-être que pour produire autre chose que des pièces d'avion pour produire des avions, déjà, ça se discute. Mais on pourrait essayer de l'imaginer et de produire autre chose, quoi. Je sais pas, je vois pas de grosse différence entre un avion et une cocotte minute. On pourrait faire des cocottes minutes.
On peut être étonné du soutien inconditionnel de certains États dont la France fait preuve vis-à-vis de l'État d'Israël. J'allais dire, à quoi nous sert l'État d'Israël, en fait, au niveau de tous ces États, sachant que la politique d'occupation militaire est quand même contraire aux valeurs de ce pays, de la France, qui se dit patrie des droits de l'homme, enfin du moins de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il y a eu un tribunal de Nuremberg pour qualifier les crimes du régime nazi. Et ce qui se passe actuellement à Gaza, c'est un peu la même nature.
Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre niveau ?
Réfléchir.
C'est déjà bien.
Non, mais... Déjà avoir un esprit critique, mais ça c'est pas simplement à propos de la situation en Palestine, hein, c'est développer un esprit critique et puis...
Ne pas écouter tout ce que l'on dit.
Écoutez, ici, mais pas tout prendre pour argent comptant,
voilà,
et
ça.
Puis voir d'où ça vient, se poser des questions. Que ça soit la propagande, elle vient de partout. Hein, donc, c'est prendre, essayer de prendre, au moins se faire une idée soi-même, quoi, par soi-même, même si c'est pas facile, mais va réfléchir. Et pour ça aussi, c'est en discutant aussi, parce que et donc, je pense que des soirées comme celles qu'on organise, ou des rencontres qu'on fait sur le marché et tout, sont des occasions d'échanger.
Mmh.
Hein, et on n'est pas obligé tous d'être d'accord. Il n'y a pas de problème là-dessus. Si ce n'est pour dire quand même que ça suffit, là, pour le coup, et stop. Une fois qu'on veut dire stop, et tous les moyens sont bons. Et la campagne BDS, donc boycott, désinvestissement, sanctions, c'est aussi quelque chose qu'on peut continuer de développer, parce que pour à mon avis, c'est pas assez développé, et à plusieurs niveaux. Hein, personnel, c'est de dire je m'abstiens de consommer les produits qui viennent d'Israël, donc beaucoup des colonies aussi, et je ne favorise pas le commerce avec Israël comme des enseignes qui s'implantent en Israël et dans les territoires occupés aussi, comme Carrefour, par exemple, pour ne citer que ça, mais il n'y a pas que. On pourrait dire McDonald's aussi, hein, les banques, certaines banques qui ont des fonds d'investissement qui interviennent dans le financement de toute cette économie israélienne. Donc c'est de... soit retirer son argent, soit au moins questionner son banquier sur tiens, on m'a dit que c'était envoyé dans les sociétés israéliennes, c'est vrai, c'est pas vrai. En gros, si on dit rien, il se passera rien, quoi. Mm-hmm. Après, ça veut pas dire que tout va changer, mais même simplement, moi je serais pour aussi qu'on questionne nos élus locaux sur c'est bien beau de les voir à certaines manifestations et tout, mais sur le financement qui se fait, par exemple, sur... Je ne fais pas des fixations sur l'aéronautique, mais il y a quand même des deniers publics qui sont dépensés, qui sont mis dans l'économie de ces grosses boîtes, à travers les infrastructures qu'on peut construire, pour le bien de la région, pour le bien de tout le monde, pour dire que ça fait de l'emploi. Mais au-delà, on peut quand même légitimement avoir en retour des informations sur qu'est-ce qu'il en est vraiment. Est-ce que qu'est-ce qui se passe dans ces usines derrière? Est-ce que c'est sûr qu'il n'y a pas d'armes qui soient vendues au moins à Israël? Bon, les armes fabriquées, il y en a, mais vendues à Israël, etc., quoi. Donc c'est du ressort de chacun individuellement et après collectivement pour s'organiser et questionner les gens, pas avoir peur de dire je comprends pas, je trouve que c'est inadmissible. À moins qu'on légitime et qu'on dise c'est normal et tout, et puis finalement on a rien à faire des Palestiniens, pourquoi pas, hein, mais à ce moment-là, il n'y avait même pas besoin d'écouter cette émission.
Messieurs, un dernier mot ou pas?
Oui, rendez-vous surtout.
Jacques,
rendez-vous
oui.
Samedi déjà. Samedi à 11h, comme tous les samedis matins sur le marché.
Voilà, on peut vous retrouver là.
Voilà, donc on aura un stand d'information et en général une petite prise de parole sur l'actualité.
Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous d'être venus parler de la Palestine sur nos ondes. Au revoir.
Au revoir.
À côté de son âne, sur un sentier de terre, un très vieil homme marche, pieds nus dans ses sandales. Et c'est en Palestine, et ça n'est pas hier, non, c'est ce matin même, dans les collines pâles. Regarde bien, dit-il, cette route qui passe à deux pas larges et lisses, et s'en va où je vais. Elle n'est pas pour moi, ni pour ceux de ma race. À des chemins d'exil, nous sommes condamnés, à des chemins pierreux, par la loi des soldats, qui font une prison de mon pauvre pays, qui bâtissent des murs et ne me laissent pas aller jusqu'à mon champ, tirer l'eau de mon puits. Regarde bien, dit-il, dans l'or de la vallée, le père de mon père et son père avant lui, patient, pareillement, élevait l'olivier. j'ai fait ce qu'il faisait. Mon fils m'aurait suivi, mais bardé de fusils, des flammes plein les yeux, des hommes sont venus, implacables, hurlant. Cette terre désormais nous appartient, va-t'en. Me voici l'étranger, le malvenu, le gueux. Regarde bien, partout monte leur forteresse, où que le regard porte, blanche sur le ciel bleu. Le fou qui s'en approche, il le tue, il le blesse. À croire que le soleil et le vent sont à eux. Sur le chemin montant, le vieil homme s'arrête. Ils ont les bulldozers, les blindés, les canons. Je n'avais que ma sueur, ma bête et ma charrette, et mes seules mains pour défendre ma maison. Ils ont le feu du ciel, les bombes et le vacarme, contre l'acier brûlant. Que peut un cœur qui bat? Et je n'ai plus de toi, et je n'ai plus de larmes, mais suis encore debout, et je resterai là. Le vieux ajoute encore, et c'est aujourd'hui même, avant de s'en aller, sans plus se retourner, avant de disparaître, au tournant du sentier, quand tu retrouveras au loin les gens qui t'aiment. Offre-leur de ma part des paroles de paix.